bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. C'est la bande originale, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez avec Lila Galobudadi, Marina Rollman, Daniel Morin, Albert Algou, Tanguy Basturo sera là tout à l'heure et nos invités Vincent Lacoste et Félix Moati. Bonjour les garçons, merci de venir nous présenter votre premier film, Félix Moati, en tant que réalisateur. Deux fils, dans quel état êtes-vous ?
Oh, c'est un mélange de grande angoisse, mais la joie prend le dessus en fait, ça va. Là, pour venir, j'ai vu plein d'affiches sur les colonnes Maurice et tout, et je me suis dit, bon, bah, c'est quelque chose qui est réel en fait.
Ça y est.
Voilà, ouais, c'est parti, c'est bien là.
Ça a mis combien de temps à porter un premier film ? On se rend pas compte, on se dit.
28 ans.
Réponse extrêmement démagogue.
Non, mais sincèrement, non, mais j'ai écrit, j'ai commencé il y a 2 ans, je pense, à écrire, et puis, mais en fait, j'avais des, comme le dit Vincent, des espèces de ruminations, d'obsessions depuis quelques années, je lui en parlais beaucoup, et puis voilà, maintenant c'est là, quoi, ça existe.
Vous êtes pas depuis combien de temps tous les deux, Vincent?
Depuis 10 ans, là, maintenant. On s'est rencontrés au Grand Journal, l'émission télé, là. Parce que en fait, il avait fait LOL, un film, ouais. Et moi les beaux gosses, qui était sorti la même année, donc on s'était rencontrés dans les loges.
Voilà. Et ensuite, en mangeant des balistos.
Ça tient à rien une vie. Hein.
Ouais, comme quoi.
Ça tient à rien. Ça s'appelle Deux. Ça s'appelle Deux Fils et ça sort mercredi prochain. Nous serons le 13 février. Mais d'abord, voici des questions concernant justement Félix Moati et Vincent Lacoste pour voir si vous avez bossé un tout petit peu le sujet. À qui Félix Moati téléphone-t-il obligatoirement tous les jours?
À sa mère.
Son père.
Ouais, exactement.
Ok.
Tous les jours.
Tous les jours, c'est plutôt lui qui m'appelle. Mais
il y a un message là.
Non. Vous savez, les parents refusent toujours que les enfants grandissent. D'ailleurs, ouais. Je crois qu'ils nous écoutent.
Ah bah, à ce moment-là.
Big up, padre.
Et pardon, mais vous parlez de la vie
non,
quotidienne, de banalité.
De nos dépressions respectives.
Vous avez des sujets de prédilection. Je sais pas, le sport, la politique, les arts.
Ouais, il y a plein de sujets. Généralement, juste pour commenter le beau temps, ce qu'on appelle l'amour filial.
Ça peut être une espèce de revue de presse.
C'est ouais.
On imagine Serge Moati avoir un vrai regard sur l'actualité au jour le jour.
Ça, c'est certain. Un regard toujours curieux et sans cesse en question. Et ça, il m'a donné vraiment le goût de la curiosité, quoi. En fait.
Vous êtes toujours d'accord?
Globalement, ouais.
Sur les valeurs, en tout cas. Sur
ça, c'est certain, ouais. C'est ça.
Vincent Lacoste l'a testé sans grande réussite.
L'amour.
Je parle de quoi?
Le yoga.
Ouais. Ah bah, j'ai accepté.
Oh, on était ensemble. Oh, c'était hilarant.
Il faut pas y aller tous les deux, on est là comme ça, extrêmement gênés à faire des poses qui n'existent pas pour un corps humain masculin qui boit et avec quelqu'un qui faisait des chants.
Il a fait des espèces de chants grégoriens là où il était machin et tout, et c'était incroyable, quoi.
Mais ça s'appelle de la méditation, Vincent. C'est pas fait pour déconner, c'est pas fait pour aller avec un pote, avec viens, on va se marier. C'est fait pour être seul en haut d'une montagne.
Je crois qu'on s'est fait dégager du cours, d'ailleurs.
Virer d'une cours de méditation.
Non, mais on s'est fait humilier à la fin parce qu'on devait faire des poiriers. Et alors, tout le monde faisait des extrêmement beaux poiriers. Et nous, vraiment, c'était pathétique.
C'était un roseau.
Ouais, c'était. On n'arrivait pas du tout. Et ils nous avaient mis dans
la pierre.
Tout le monde, en train de dire, allez, bien.
Alors, les acteurs.
Donc, vous avez abandonné l'idée de faire ne serait-ce que de la méditation. Vous pouvez être seul dans votre chambre. Hein, vous n'êtes pas obligé de prendre un coup.
Non, mais la méditation, moi, ça me dirait bien. Mais je suis trop déconcentré, en fait, pour. Enfin, la méditation, ça demande. Ouais, voilà, ouais. C'est ça, quoi. Moi, je commence direct à penser à un truc. Qu'est-ce que je vais manger ou qu'est-ce qui se passe. Enfin, j'ai toujours une petite angoisse qui arrive.
Qu'est-ce que je vais manger? Ça, c'est quand même.
Continuez la picole.
Ouais. Quand il était petit, Félix Moati hésitait entre 3 professions: joueur de foot, boxeur. Quelle était la 3e?
Comédien.
Gigolo.
Bah non, comédien, c'est trop facile.
Gigolo.
Non.
Astronaute.
Pompier. Vétérinaire.
Ébéniste.
Non. Ah, ça a été dit.
Maîtresse.
Non, tu l'as dit, Diane. Ébéniste.
Ébéniste. Non, 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 mais c'est, ça, c'est faux.
Bah, c'est fou.
Vous avez dit ça dans Jeune et Jolie en 93.
Je voulais être espion, en plus. Je voulais travailler
dans,
à la DGSE.
Dans Le Monde en 2018.
J'ai dit ça?
Bah, ouais, écoute,
bah oui, mais Ébéniste, c'était la couverture. Et en vrai, il était espion.
Quand j'étais petit, je voulais être joueur de foot, boxeur ou ébéniste. Si je ne faisais pas de cinéma, je serais bien égaré. La phrase dite.
Ah, ouais, ça, c'est pas faux.
C'est vrai qu'ébéniste, je suis toujours regardé ça.
Ouais. En tout cas, bon, le football, ça, c'est quelque chose que vous avez toujours porté.
Ah ouais,
en
je joue d'ailleurs toujours. Ouais. Et je dois dire que je suis plutôt assez doué d'ailleurs en foot.
Et modeste en même temps.
Humilité, mon grand fort. Voilà.
Et vous avez, à 10-12 ans, demandé un autographe à une.
À Lilian Thuram.
À Lilian Thuram.
Que j'ai vraiment que j'ai pourchassé dans la rue de Rennes, je me souviens très bien, il était là. Il avait été extrêmement sympathique.
Ah bon?
Ouais.
Mais c'était avant la Coupe du Monde.
C'était, bah, j'avais 12 ans, donc en 2002, ouais.
Ah, là là.
Ah oui, après la Coupe du Monde.
Après la Coupe du Monde.
12 ans.
J'avais 12 ans.
Il nous a calmé, ouais. 12 ans, 2002, il nous a calmé.
Je suis né en 90.
Oh, ça va. Pourquoi dans le téléfilm Saint-Amour avec Gérard Depardieu et Benoît Poulvorde, pourquoi il ne tournait que le matin d'après Vincent Lacoste?
Parce qu'après le déjeuner, c'était bon.
Bon,
après le déj.
Alors, des cuvées, quoi.
Ouais, c'était un peu facile.
Question très facile. Ah,
c'est
ça.
C'est pas la
question
plus dure.
De logique.
C'est pas la plus dure.
Et vous les trouvez géniaux. En quoi sont-ils géniaux?
Bah, pour ça, déjà, c'est quand même très marrant.
Ah, t'es l'apologie de l'alcool.
Non, c'est pas une apologie de l'alcool, en plus. Non, mais parce qu'ils sont, c'est déjà.
Déjà, entre eux, ils
s'adorent. Des acteurs brillants.
Et puis, ils sont vraiment potes.
Ouais, ils sont vraiment potes, ils s'entendent très bien. Ils ont un truc de je sais pas, ils sont hyper. Enfin, moi, ils ont toujours fait très attention à moi, par exemple, étonnamment. Et ils ont, un plaisir du jeu que, bah, parce que c'est pas l'image qui renvoie. En général, on dit qu'ils sont un peu dans leur monde, quoi, un peu fous. Alors qu'en fait, pas du tout, quoi. Ils sont très très attentifs, très. Et vraiment, et puis surtout, ils ont un plaisir du jeu, et ça, c'est quand même très agréable, quoi. Et puis, c'est des grands acteurs.
C'est comme des mômes. C'est des grands acteurs, mais ils continuent d'avoir des comportements de.
Bah oui, parce que oui, parce que oui, bah ça, par exemple, c'est. Mais après, ça, c'était pas. Attention, c'était pas de la faute de personne. Hein. C'est que surtout le tout le monde était moins performant l'après-midi parce que on tournait sur la route des vins, donc c'est forcément il y avait des viticulteurs et tout qui venaient, qui
il y a des indicateurs qui ne trompent pas. On a beau dire avec modération, il y a un moment où ça va se voir.
Attends, c'est la route, hein.
Benoît Poulvorde, que vous retrouvez dans ce film de fils. Il y a quand on rejoue comme ça avec quelqu'un que l'on admire, en plus on retrouve des réflexes dans le jeu.
Ah ouais, bah carrément. Bah Benoît surtout, c'était très bien entendu. Et puis ouais, c'est ça, lui il a un plaisir du jeu en fait qui est totalement communicatif, et surtout il est à l'écoute en permanence, quoi. Donc c'est d'une simplicité de travailler avec lui, quoi, et puis il est hyper intelligent, parce que je parle de ça, mais c'est quelqu'un de. Il adore la littérature, par exemple. Il est hyper, là-dessus, il est assez étonnant, quoi. C'est quelqu'un qui donne vraiment envie de lire.
Oui, cultivé et instinctif aussi dans sa manière d'être.
Ah bah oui, totalement. Oui, parce qu'en plus, il va pas faire des grands discours sur le jeu d'acteur ou je ne sais quoi, quoi.
Est-il facile à diriger, Félix Moatti?
Franchement, très facile. Il y a pas plus facile que Benoît à diriger, que Benoît Poulvorde, parce que, comme vient de le dire Vincent, c'est qu'il adore jouer. Il adore ça, donc il adore qu'on lui demande des choses qu'il n'a jamais faites. Et puis il est très bon camarade sur le plateau. Effectivement, il est très à l'écoute de ses partenaires, et il sait que ce que va dire l'autre acteur est plus important que sa réplique à lui. Mmh. Et donc il est merveilleux sur un plateau, ouais, vraiment.
De quel réalisateur, justement, Félix Moatti, connaissait-il les répliques de films par cœur sans même avoir vu un seul de ses films?
Le Comte?
Non.
Godard?
Non.
C'est français?
Non. Pardon, tu
c'est dis français?
Oui.
Ou pas?
Mais moi, je dois répondre.
Lelouch?
Non.
Ah bah non. Alors, non, moi, je dois pas répondre, c'est ça.
Truffaut, sauté?
Ouais, Truffaut, bien joué. Mm.
Ah oui, exact. En fait, j'avais compris que Truffaut
pour
draguer,
c'était pas mal.
Comme
si vous étiez surpris.
Mais parce que je m'apprends pas par cœur. Mais oui, exact. Vivement Dimanche. Je ne fais pas partie de la société des hommes. Tout ce que je fais, c'est pour les femmes. J'ai absolument jamais vu le film.
Et comment vous connaissez les répliques sans avoir vu le film, alors?
YouTube.
La bande-annonce.
Le piratage, surtout.
Et ça marche ou pas? Parce que c'est ça, la question. Non, ça marche pas du tout avec les filles.
Ouais.
Bon, bah voilà. Faut changer de réal, quoi.
Voilà, exactement.
Qu'est-ce qui marche avec les filles, alors, Félix?
L'alcool. Non, j'ai
le GHB, l'alcool, quoi.
C'est voilà, écoutez,
quelle horreur.
Voilà. Non, quelle horreur, ce que je veux dire. Non, non, je sais pas, écoutez. Je sais pas. Je suis encore à me poser la question.
Comment Vincent s'est-il cassé carrément le genou trois semaines avant le tournage des Beaux Gosses?
Je sais.
Ski,
tombé
scooter.
Du sixième étage.
Non.
En descendant un trottoir, une marche, d'escalier.
Non.
Un truc,
du ski.
Un truc un peu bête.
Un truc très bête, ouais.
Du football.
Scooter, non.
Tombé de son lit.
Non.
Truc bête.
Un truc qu'on a peut-être, je crois, tout fait autour de sa table.
Il a essayé de s'accrocher à faire du
jeu. Un saute-mouton. Alors, c'est saute, mais pas mouton.
J'ai eu un autre accident en saute-mouton d'ailleurs.
Sautant d'un balcon.
Non. Oh, ça, on l'a pas tous fait.
Si.
Non.
Ah, pour faire le mur, sauter au-dessus d'un truc pour faire le mur, non.
Trampoline.
Ce que j'aime bien, c'est que tu as tout de suite au réflexe de faire le mur, toi.
Oui,
oui, bien sûr, c'est ta vie normale. Non, c'est une bêtise musicale. Je peux pas vous aider plus.
En dansant.
Ah, essayer de faire le claquer de pied comme ça, comme dans.
En faisant des claquettes.
Non.
En sautant de la scène.
Non.
En voulant se jeter sur le public dans une boîte.
Stage diving.
Non. Slam, non.
Mais en recevant un artiste
pogo,
dessus.
Oui.
Un pogo. Où est-ce qu'on pogote encore?
On pogote encore.
Non.
À l'Élysée Montmartre.
Des concerts.
Sur des concerts de rock déjà. C'est pogo, ouais. Et c'était un concert de potes, vous.
C'était un concert de potes, ouais, avenue de Saint-Ouen, dans un petit bar, des potes qui avaient un groupe de punk qui faisait des reprises. Et c'est surtout la première fois où je sortais tout seul de ma vie. Quoi. C'était trois jours avant le début du tournage des Beaux Gosses. Et en fait, il y avait plein de bière. Enfin, c'était mouillé le sol. Ouais. Et j'ai glissé pendant un pogo et je me suis luxé la rotule. Donc ma rotule est partie.
Mais quel boulet ! Mais quel boulet !
Ouais.
C'est-à-dire que le projet aurait pu disparaître.
Ah bah j'ai failli me faire vider. Hein.
Oui, c'est ça.
Je vous cache pas que là, ça a été. J'ai été assez désespéré par un moment. Et d'ailleurs, c'est uniquement Riyad qui a voulu. Que je fasse le film, parce que évidemment toutes les assurances et tout le monde voulait que je dégage. J'étais un inconnu.
À part le docteur Zuccarelli qui dit ouais non c'est bon il peut.
Docteur Zuccarelli qui quand même ouais, mais en attendant lui il m'a emmené voir le spécialiste du genou, on m'a fait une ponction et bam ensuite je pouvais marcher.
Je cite parce que c'est le médecin de la médecine du travail des intermittents du spectacle et c'est le nom que vous avez donné à votre personnage en film.
Ouais mais rien à voir hein, Charlie. Hein.
Tu pars.
Non non rien à voir c'est le nom de jeune fille de ma mère. C'est le nom de jeune fille de ma mère Zuccarelli. C'est pour faire exister ma mère dans le film. Ouais. On est corse, elle est bastiaise.
Non mais d'accord, mais il y avait un docteur Zuccarelli dans
un
film.
Il y avait un docteur Zuccarelli, ouais.
On se dit,
qui n'a strictement
rien à voir. Il y a une vanne, d'accord. Allez, dernière question, et alors, je vous garantis que vous ne pourrez pas trouver
ça.
Ah bon ? C'est bien parti.
Impossible. Oula. Pour le tournage de Deux Fils, donc, par quel mot Félix Moati commençait chaque scène de tournage ?
Banane.
Non.
Coupé.
Non.
Bonjour.
Tu commences.
Fumier. Bah oui, mais justement.
Non.
On veut une catégorie, c'est un verbe, c'est un.
Si Dieu le veut.
C'est comme un cri de.
Yalla.
Allez, zou.
C'est dans l'esprit.
Oui. Allez, Hitler.
Go.
Ouais, France Inter, c'est plus que c'était.
Bon appétit.
Je te confirme.
Un cri de guerre.
Hakuna Matata.
Je vais vous aider. Il y avait deux mots. Le premier était force.
Donc, et vertu.
Force et fidélité.
Force et vertu, non. Force et fidélité, non.
Force et honneur.
Oui,
exactement. Force et honneur. Ah bah oui,
ce qui est marrant
honneur,
parce que je n'ai ni force ni honneur.
Ah bah écoutez, enfin des valeurs solides.
Ça vient d'où, force et honneur?
Mais je sais pas, et j'ai appris plus tard que Mussolini disait la même chose, ce qui m'a un peu angoissé en fait. Je dois dire que la prochaine fois je vérifierai mes références. Mais j'aimais bien.
Mais c'était quoi? C'est une vanne? C'est une manière de motiver tout le monde?
C'était un peu une vanne à la base.
Un peu comme
Louis
Jouvet.
Parfois je faisais force et robustesse. Enfin, il y avait un truc, voilà.
Louis Jouvet finissait par.
Ça fait canapé ça.
Ses cours par mort au con.
Ouais,
les cours, c'est mort au con, vaste programme, énoncé par Louis Jouvet, force et honneur.
Ouais, je sais pas pourquoi
c'est un peu marine.
C'est un truc de Milouf, quoi.
Quand on joue Vincent Lacoste, ça motive un cri de guerre comme ça posé par un réalisateur?
Oui, oui,
vous l'avez pas entendu.
J'essaie de faire abstraction, moi, de ça, mais.
ça lui fait plaisir.
Ne m'écoutez pas,
ça lui fait plaisir.
Alors, Deux Fils, Joseph, joué par Benoît Poulvorde.
Oui.
Et ses deux fils, Joachim et Yvan, joués par Vincent Lacoste et Mathieu Capella, forment une famille très soudée. Alors, ça commence par le triste départ du frère.
Ouais.
Ouais, c'est, oui.
Le frère
de Benoît Poulvorde, qui meurt avec des scènes de comment dire, comment choisir un cercueil,
ce qui est juste un truc cercueil,
improbable. Malheureusement, pour avoir enterré plusieurs personnes dans ma vie, j'ai jamais vu une scène comme ça.
Ah bah, mais...
Vous, oui?
Non, je touche du bois tout de suite, je suis extrêmement superstitieux.
Je touche du bois, c'est le cas de le dire.
Ouais, là, oui.
Mais d'où vous est venue l'idée de démarrer votre film par un essai de cercueil?
Mais je me suis dit que je pouvais me permettre ce genre de pente un peu dramatique parce que le choix de ces acteurs-là, précisément un acteur comme Benoît Poulvord, il y a une légende comique qui le précède et donc ça nous protège en tant que spectateur de trop de gravité. Et c'est pour ça que je me le suis permis. Tout comme Vincent, je peux le mettre dans des situations un peu tristes. Il nous protège avec sa délicatesse d'acteur comique, enfin avec sa la comédie qu'il a en lui. Et donc voilà.
Non, c'est d'ailleurs donc vous avez écrit en sachant qui allait incarner le rôle.
Non, mais je savais que j'irais vers un acteur de cette trempe-là. Ouais.
D'accord.
Je savais.
Ouais. D'accord. Et en fonction de l'acteur, vous vous permettez ou pas de jouer avec le caractère.
C'est ça. Moi, j'ai une grande peur de l'esprit de sérieux et de la gravité. Je trouve que c'est un peu indélicat dans beaucoup de circonstances. Et donc, je demande aux acteurs et au dialogue, par exemple, de nous protéger de trop de gravité par de la comédie.
Ils sont tous les trois en crise pour différentes raisons. Le père et les deux fils.
Ça, ouais, ça, c'est le mot qu'on puisse dire.
C'est une grosse crise, oui, parce que le père est médecin, mais il décide d'arrêter son métier pour devenir écrivain, et il s'avère qu'il n'est vraiment pas doué.
Il aurait pas dû arrêter.
Ouais, mais il y croit, il a du désir et de la conviction.
Il est convaincu. Et les fils.
La scène de lecture chez le libraire, elle est dingue.
Ah ben.
Elle est dingue.
Mais super j'adore cette scène-là. Ah ouais, non, mais c'est vrai.
Merci, Vincent.
C'est une scène où Benoît, en fait, il veut devenir écrivain, et il lit ses textes devant ses fils et toute une librairie. Sauf qu'on se rend compte très vite que vraiment les textes sont absurdes et hyper
très
érotiques,
gênant.
En plus très gênants.
Très très impudique.
Et en plus, il les explique à chaque fois comme s'il devait s'excuser ou justifier de telle.
Mais je trouve que la grâce de l'interprétation de Benoît, c'est de jamais ridiculiser son personnage. Mmh. Il le respecte beaucoup.
Ah, il est sincère.
Ouais, voilà, et c'est ça qui est beau, je trouve.
Et quant aux. Alors, les fils ne sont pas mieux lotis, hein, si
non.
Je peux me permettre.
C'est certain.
Commençons par le plus jeune.
Mathieu Capella.
Ouais. Ouais.
Qui joue super, formidablement bien.
Ah, bah, c'est gentil pour lui. Ouais. On l'a trouvé en casting sauvage. Ce qui était marrant, c'est qu'il était quand même au collège François Truffaut.
Et évidemment. Ça vous poursuit. Hein.
Et lui, il a vraiment vu les films. et le truc, c'est que Mathieu Capella, il avait tout de suite. Il s'est imposé au casting par une familiarité de jeu avec Vincent. Je trouve une sorte de nonchalance concernée, de ne pas courir derrière l'intensité à tout prix. Il avait vraiment une envie il cherchait pas l'intensité. Il était très naturel avec des dialogues volontairement sophistiqués. Et ça, je trouvais ça assez démentiel, quoi. Être si jeune et ne pas vouloir être pris au sérieux.
Et aussi, il y a une belle démarche de réhabilitation de l'alcool.
C'est un ado, quoi.
C'est vrai.
C'est un collégien.
C'est un petit.
Qui est habité par des idées de mort, qui est très amoureux, éperdument amoureux, mais qui a conscience de la finitude de l'existence. Donc ça le rend un peu poète, hyper attachant, mais pour des gamins de son époque, de son âge, complètement décalé. Il est hors temps, quoi.
Il est un peu hors temps, oui. Mais en fait, il est très religieux, quoi, parce qu'il va chercher dans la religion une sorte d'architecture que ses modèles, Vincent et Benoît, ne lui donnent plus, en fait. Mmh. Et il est obsédé par la force. Il est obsédé par Poutine, quoi, par exemple. Ce qui est un peu bizarre, c'est une passion étrange à 13 ans.
Il veut être dictateur, il est plus fort du monde, il n'a peur de rien, il dit souvent ça.
Ouais.
Je crains personne.
Il ne craint personne.
Honneur et robustesse, quoi.
Voilà,
il a
une férocité adolescente, en fait. C'est un peu un cœur fanatique.
Il dit, je suis une bête féroce, à un moment.
Je suis un tigre.
Je lâcherai pas, quoi.
Les deux ont une libido assez poussée, quand même. Les deux frères, vous, Vincent Lacoste.
Ah, ça, c'est sûr, ouais, carrément. Ouais.
Vous ne pouvez pas avoir un bout de nuque, de chair ou de jambes sans avoir la tête qui tourne.
Ouais, c'est ça que j'aime bien, parce que moi, mon père Joachim, bon, après, il est dans un moment un peu dépressif de sa vie, hein, puisqu'il vient de se faire quitter. Il essaie d'écrire vaguement une thèse, enfin, il essaie plus vraiment, quoi. Il fait pas grand chose.
Alors qu'il fait partie des meilleurs.
Alors que c'est un des meilleurs, mais bon là, il a plutôt oublié. Hein. Et en effet, du coup, il essaie de se relancer un peu dans. Bon, en tout cas, il est assez obsédé par les filles, ouais, ça c'est sûr. Mais après, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'en même temps, il est pas
chasser...
non plus méga successful aussi.
Non.
Quoi.
Non.
C'est-à-dire qu'il est, enfin, il pense qu'il l'est énormément, mais en même temps, bon. Il est un peu à quémander en permanence, quoi.
Oui, il va même directement draguer au sein de la famille.
Ouais, ça coûte.
C'est pas vraiment la famille.
C'est très bizarre pour eux. Encore une fois, il utilise un peu le personnage.
Félix, le problème, c'est pas de jouer le personnage. Le problème, c'est celui qui l'a écrit.
Ouais, mais c'est pas ça. Moi d'ailleurs. Non, si, c'est moi qui ai écrit le film. Mais,
ça va bien avec votre cousine?
Moi, ça va très bien avec mon cousin, que je salue. Mais en fait,
qui nous écoute et qui est en larmes.
Oh mince. Le personnage.
Elle élève l'enfant toute seule maintenant.
C'est ça.
Vous avez un droit de visite, donc tout va bien. C'est ça qui compte. C'est reconnaître le statut du père aujourd'hui, c'est important.
Un premier film, ça dit beaucoup de choses.
C'est c'est mentir vrai, c'est mentir vrai.
Je suis choqué.
Ah bah nous.
Ah bah nous, alors. Nous, on est sortis de la salle de cinéma, on est allé voir un psy directement. Non mais justement, premier roman, on sait que c'est autobiographique, premier film, on sait aussi qu'il y a beaucoup de soi que l'on met, et je pense, dans différents personnages, pas dans un seul personnage.
Sûr.
Vous êtes un peu dans chacun des trois garçons.
Non, le mot autobiographie me gêne un peu parce que ça voudrait dire l'attachement historique à des faits qui se sont produits, et là c'est vraiment pas le cas. Par contre, c'est un film personnel, mais moi c'est ce que je demande au cinéma en règle générale, que ce soit le premier film, le deuxième film, le dixième film. Moi j'ai envie que le réalisateur me parle de lui, parce que j'ai l'impression que s'il me parle de lui, il parlera aux autres en fait. Plus c'est intime, plus ça s'élargit. Et c'est vrai que il y a un peu de fragments de mon rapport au monde dans chacun des personnages, mais même dans les personnages féminins. Et oui, j'avais envie de faire dialoguer peut-être le souvenir fantasmé du gamin de 13 ans que j'étais avec le jeune adulte que j'étais en train de devenir, qui lui était tenté par la désertion, parce que le personnage de Vincent, c'est un mec qui déserte toutes ses fonctions, celle de grand frère, celle de fils, celle d'amoureux et celle d'étudiant, et qui essaye de réhabiter le monde à nouveau. Il y arrive.
Alors qu'à l'inverse, le petit veut tout conquérir, lui.
Ouais, lui, c'est un conquérant. C'est un peu un chevalier dans le vide. Moi, j'aime bien les personnages de mégalomanes blessés. Enfin, de mégalomanes dont la mégalomanie cache mal la fragilité et le vertige, quoi. C'est-à-dire que lui, Vincent, il répète dans le film, je serai le plus grand psychanalyste du monde, je serai le plus grand psychanalyste du monde, mais il ne fait rien pour. Mais c'est comme un mantra pour s'autoconvaincre qu'il faut réhabiter le monde.
Et leur rapport aux femmes est quand même très particulier, aux trois hommes, hein, je veux dire.
On y revient.
Voilà. Bah oui, il y a celui qui ne lâche rien, celui qui fait des mots doux, celui qui se sert de l'alcool, enfin, celui qui va chasser dans sa famille.
Chasser, c'est de cet ordre-là, ouais.
Non, mais c'est
à l'occasion d'un enterrement, c'est quand même le mec qui cherche des circonstances atténuantes pour pécho.
Les trois me font peur, donc je veux savoir qu'est-ce qu'il y a de personnel, Félix Moitié, dans tout ça. Vous dites qu'il y a même une part de vous chez les filles.
Bien sûr.
Donc quel est le point de vue féminin que vous voulez exprimer dans ces différentes manières de séduire?
Par exemple, quand il drague sa cousine à l'enterrement, Vincent, c'est une manière de le ridiculiser et de montrer son état de détresse. Lui-même n'y croit pas. C'est vraiment, il a besoin d'être consolé en fait. C'est trois personnes quand même.
Il cherche un câlin, quoi.
Ouais, Joseph, ouais. Yvan et Joachim sont trois personnes en quête de consolation. Et la consolation est impossible à rassasier. J'aime bien cette phrase.
Ouais. C'est assez sentencieux.
On va rester là-dessus. Ouais.
Merci.
Bonne journée.
Force et honneur.
Ça sort le 13 février au cinéma. Vincent Lacoste, Benoît Poulvord, Mathieu Capella, Anaïs de Moustier.
Anaïs de Moustier, merveille.
Merveille.
Lola Creton, Indy Zara. C'est aussi beau dans ce film, c'est ça?
Indy Zara.
Pardon, j'ai dit quoi, Indy Zara?
Indy Zara.
Chanteuse.
Bon, oui, je la chanteuse.
Ouais.
Non, mais ce qui est bien, c'est ça aussi, c'est qu'on a en effet des grosses têtes d'affiche, mais je trouve que les rôles qui entourent ces comédiens principaux, c'est aussi une jeune génération qu'on voit peut-être un peu moins souvent. Je trouve que c'est un beau casting.
Elles m'ont fait la joie et la grâce d'enregistrer leur visage pour mon premier film. Quoi.
La grâce, oui, il y en a, ça je confirme. Il y a des moments comme ça de magie aussi et de poésie dans le film. Tout n'est pas dark. Maréchal Ganache, ça sort la semaine prochaine, le 13 février. Ouais. Ça va être un succès.
Oui, bien évidemment. Film impeccablement réalisé par Moët et Félix. Au cri de guerre admirable, force et honneur, fait rêver. Servi par des comédiens de première bourre, dont Lacoste Vincent. Alors, toute la subtilité de ce film est admirablement résumée dans son titre. Certes, ces deux gars sont frères, mais en les distinguant comme fils, c'est surtout l'individualité irréductible de deux jeunes hommes qui est prise en compte. Ces deux fils posent les problèmes de la filiation, de la transmission, et celui, hélas, de l'abaissement aussi général que lamentable dans notre société, de la figure paternelle, incarnée ici admirablement, n'auriez pas, par Benoît Poulvord. Mais attention, en l'absence de la mère, cette désacralisation du nom du père, comme disait Jacques Lacan, tout ça n'empêche pas le père de rester au centre de la configuration familiale, et l'on peut voir les dangers qui se présentent quand la fonction paternelle ne peut pas être assumée. D'où les difficultés qu'éprouvent les deux fils, qui ne peuvent pas facilement renoncer à leurs souhaits oedipiens en se constituant des défenses narcissiques et objectales. Ah, ça ferme bien sa gueule autour de la table aujourd'hui. Ah, au lieu de me couvrir de gloire, d'urine et de sang en indo contre les viettes...
On n'a pas le temps.
Force et honneur. J'aurais mieux fait de m'installer comme psychanalyste. Le métier rêvé de Lacoste Vincent dans le film d'ailleurs. J'avais du bagou pour ça. Et vu le prix des consultes, je me serais fait un paquet de pognon, genre un appart dans le 7e. Et j'aurais même pu intervenir brillamment comme spécialiste dans votre émission, Nagui.
Non, ça ne va pas être possible.
Bon, mais d'accord, revenons au film et à des constatations plus terre à terre. Des constatations façon Nagui. Car juste avant l'émission, vous m'avez dit, cher Nagui, pour une fois, Maréchal, j'ai vu le film. Ces deux fils et leur père, c'est un beau trio de déglingués, de dégueulasses, pour pas dire de dégénérés. Ça reste entre nous, mais moi je pense qu'il y a des coups de pied au cul qui se perdent. Ah Nagui, enfin la réaction d'un gars qui, contrairement à certaines rumeurs, en a dans le froc. Alors du coup, j'ai envie de vous raconter comment moi aussi, quand j'étais en garnison à La Châtre, 43, j'ai eu deux fils inséparables. Des Siamois, les fameux Siamois de La Châtre, qui étaient en fait des Siamois péniens. Mais je sens se réveiller.
Mais c'est n'importe quoi.
On a du mal à les séparer.
Mais c'est n'importe quoi.
Mais bon, je sens se réveiller les douleurs de la mutilation qui m'empêche de rester assis plus de 3 minutes.
Merci.
D'affilé, toi aussi, je vais aller me coucher sur le divan et je vous souhaite une belle émission.
Merci, à bientôt.
La bande originale.
Et ben justement, une psychiatre pour adolescents, Marion Robin, nous fait la gentillesse d'être là et nous parlerons avec elle justement de ses deux fils et de cette relation qu'il y a aussi entre eux, qui est une relation d'amour fraternel. Mais comment définir l'amour fraternel? C'est une question qui est posée dans le film. Je t'aime, je te hais, je te chasse, je te récupère dans la rue alors que t'as fait une fugue. Je joue le rôle de second papa par moment, mais il y a quand même de l'amour.
Bah en fait, ce qui est bizarre, c'est je trouve qu'on est un peu mal fait, c'est-à-dire qu'on a du mal à dire des mots affectueux aux gens qui nous sont plus proches, et donc ils vont glaner des secrets en les volant aux portes. Ils s'écoutent aux portes énormément. Ils ont un système de langage bien à eux, quoi. C'est-à-dire qu'ils peuvent pas se le dire frontalement. Ils se volent les secrets en écoutant aux portes.
Oui, mais c'est pour ça que j'ai. Il y a quand même de l'amour. C'est-à-dire
qu'il y a que de l'amour.
C'est moche de voler des secrets, c'est moche d'écouter aux portes, c'est moche de dénigrer l'un l'autre, de balancer et ainsi de suite. Mais il faut faire attention l'un à l'autre. Il y a quelque chose de plus fort que tout.
Bien sûr, il y a que de l'amour et c'est un amour assez passionnel en fait. C'est vrai entre ce père et ses deux fils.
Et c'est maladroit.
Et c'est maladroit. Ouais.
J'imagine que votre père a vu le film.
Bien sûr.
Et alors?
Bah écoutez, moi je pense qu'en tout cas chez moi, je suis très structuré par cette idée, c'est-à-dire que moi j'ai envie de faire des choses pour rendre mes parents fiers en fait. C'est vrai, et je pense qu'on est beaucoup d'enfants dans ce genre de situation.
Même si on l'avoue pas, oui.
Bah moi c'est oui. Je fais ce film pour l'admettre en fait, hein. Et c'est vrai que j'ai envie d'honorer ce que mes parents m'ont appris en fait. Et donc, je crois que mes parents étaient très émus.
Quand vous l'avez titré « Deux fils », vous auriez très bien pu aussi dire « Un père et ses fils ». Il y avait différentes formules autour de la fratrie, autour de la famille. Se focaliser sur les deux, c'est un choix qui était guidé par quoi?
C'est pour les individuer, en fait. C'est-à-dire qu'ils sont eux-mêmes dans leur fonction de fils. Et étant donné que le film fait le trajet d'une renaissance du lien fraternel, j'avais d'abord envie que ce soit deux entités, deux fils, donc avec le spectre du père, parce que ça convoque sans le nommer le père, de les appeler deux fils, et ensuite la renaissance du lien fraternel. De deux fils, ils vont devenir deux frères.
Ça sort mercredi prochain, le 13 février, le premier film de Félix Moati. On savait déjà qu'il était un brillant comédien, on le découvre réalisateur. Vous avez pris du plaisir d'ailleurs à réaliser
C'est la moindre des choses de
prendre plaisir. Non mais certains disent, j'ai fait un film, plus jamais ça, galéré, moi, même à ce micro on l'a entendu.
Il y a tellement d'angoisse, de préparation.
L'angoisse, moi j'ai pas envie d'embarrasser les gens qui me font la grâce d'être sur le plateau, toute l'équipe technique, c'est un travail collectif, on délègue des talents, ça doit être une fête de faire un film, sinon je change de métier tout de suite, c'est-à-dire que c'est trop beau en fait, c'est tellement une chance, c'est tellement un métier compliqué que quand on a la chance de le faire, il faut absolument que ce soit une fête.
Faut s'en rendre compte.
Bah ouais, faut s'en rendre compte.
Voici Marina Rollman.
En ce moment, les amis, j'ai pas le temps, je comprends pas, j'ai des trucs à faire. J'ai pas le temps, pourtant je fais que des trucs pour gagner du temps, tu vois, je me fais livrer à manger, j'ai une machine à laver, j'ai un lave-vaisselle, je repasse rien, je saute des repas, je cumule même la productivité. Régulièrement, ça m'arrive d'envoyer des emails en même temps que je me maquille, en même temps que je suis dans le bus, télétravail, rien du tout, j'ai condensé, transport, bureau, salle de bain, et pourtant j'ai pas le temps. Même là, au moment où je vous parle, tu vois, je gagne de l'argent, c'est mon boulot, bah en vrai, je suis déjà en train de faire la liste de courses pour savoir comment je vais dépenser toute cette grosse thune du service public qui va tomber. Je pourrais pas être plus à fond. Et pourtant, je suis en retard surtout. Vous avez pas cette impression? où va tout ce temps qu'on gagne ? Tinder, les apps de rencontre en général d'ailleurs, en termes d'efficacité, c'est quand même dingue, tu vois. C'est pas à l'époque, c'est pour te rencontrer, il fallait la fête de village, qui a lieu qu'une fois par an, ouais. Et que tu loupes deux éditions, parce que t'as une tuberculose, et que donc au bout de trois ans, tu vas, tu te fais inviter à danser, le mec à moustache, là tu te dis c'est le bon, et après la danse, qu'est-ce qu'il fait ? Il t'attire sur le côté, il te murmure, Madeleine, je dois vous dire, je pars demain pour le front. Ah putain ! Donc après, relation épistolaire pendant deux ans, cher Maxence, j'espère que vous butez bien des Russes et que vous allez revenir histoire de me déglinguer, parce que oui, entre la tuberculose et la guerre, ça fait vite cinq ans que rien du tout, tu vois, pas déroulé beaucoup de câbles, Madeleine. Et bref, finalement, il revient, sauf que voilà, fiançailles, et je sais pas quoi, problème de dot, bam, annulation du mariage, et là, c'est le coup près, boum, t'as 25 ans, tu meurs vierge, tu vois. Tout ça pour dire aujourd'hui, en trois clics, en 45 minutes de RER, tu chopes, et pourtant, on n'a pas le temps, tu vois. Les déjeuners, on en parlait avec le tournage de Saint-Amour tout à l'heure, les déjeuners, le temps qu'on a gagné. Moi, ce que j'appelle déjeuner aujourd'hui, c'est inhaler une soupe en faisant du sport, tout en regardant une série, tu vois. À part en intraveineux, je vois pas comment je pourrais prendre moins de temps en déjeunant. Mais parce qu'on revient de loin sur ce plan quand même. Vous vous rendez compte, il y a eu des périodes, les gens buvaient à midi. On en a parlé tout à l'heure. Tout le monde a vu Mad Men. Vous voyez un peu ce que c'était cette réalité. C'est très réaliste. Tu sais dans quel état t'es quand tu bois à midi. Après, il y a deux heures de sudation, de zone bizarre. T'es tout rougeau, t'as envie de siester. Tu finis par taper ton secrétaire qui est un meuble. Et c'était normal. Dans les bureaux jusqu'à il y a encore pas longtemps. Mais comment on a accompli quoi que ce soit avant 92, ça me dépasse. Et pourtant, le temps qu'on a pris sur l'ivresse entre midi et 16 heures, on l'a mis où? Je sais pas. Ça pour dire, les amis, je vais m'arrêter là parce que je suis déjà en retard pour ma chronique de la semaine prochaine. Merci.
Formidable.
Merci Marina. Bande originale. Nagui sur France Inter.
C'est tellement vrai.
Je sais pas, on gagne du temps, mais on en fait quoi?
C'est incroyable, c'est incroyable. Et on n'a jamais le temps de finir en plus, ce qu'on avait commencé. Mais commençons à écouter la musique. D'ailleurs, la musique du film, j'ai beaucoup aimé, mais il y a des titres que vous avez repris, qui existent, je veux dire, et des musiques composées spécialement pour le film.
Ouais, globalement, c'est une bande originale. C'est Limousine, qui est un groupe exceptionnel, qui joue d'ailleurs le 16 février à la Maroquinerie. Bam, je suis leur attaché de presse.
Boum.
Et moi, c'est vraiment génial.
J'adore.
Ah, ça fait plaisir.
C'est qui, c'est quoi ça?
C'est le Budos Band.
D'accord.
C'est un groupe de jazz éthiopien.
Ouais. Oh.
Ça aussi, c'est en film.
C'est la scène d'ouverture. C'est Mulatu Astaké. Scène de boîte de nuit.
Scène de boîte de nuit où vous buvez, vous dansez sans avoir aucune musique. C'est ça au cinéma normalement.
Ah c'est vrai. Ouais, bien sûr. Bah ça c'est toujours la grande gêne. Et en plus on doit parler très fort, ouais. Faire semblant qu'il y a de la musique parce que sinon ensuite. C'est pas réaliste.
On va découvrir justement les musiques que vous aimez, que vous écoutiez en 2008-2009. Vincent Lacoste, vous écoutiez.
Hop hop hop, yeah. Je mène une enquête sur ton boule à la dérive.
Balance ton vieux mec trop. Tu veux du pif plein de. Baby, elle est pas très connue, mais en plus elle est dans les beaux gosses cette chanson.
C'est pour ça que vous l'avez choisi.
Ouais.
Bah oui, les amis de neuf, c'était mon premier film.
Premier film.
Et d'ailleurs, Booba a failli jouer dans les beaux gosses, hein, je tiens à le dire, le CPE, Monsieur Jean 4, bien sûr. Enfin, il a failli jouer. Bon, en tout cas, on lui a proposé, quoi.
Donc, premier rôle au cinéma, Vincent, les beaux gosses, Riyad Satouf. Pour préparer le rôle et préparer le tournage, il fallait que vous abordiez un sujet. Il vous a demandé en fait si vos parents n'avaient pas de problème avec la masturbation.
Oui, et d'ailleurs, il y avait un scénario spécial d'As où chaque branlette était remplacée par un avion qui passait dans le ciel.
C'est-à-dire qu'ils avaient fait un autre scénario pour être sûr que l'autorisation soit donnée.
C'est un film sur des gars de 14 ans qui font que se branler toute la journée, donc sur des adolescents en fait.
C'est vrai que dans la rue, les gens qui vous reconnaissaient ne disaient pas c'est Vincent Lacoste, disaient c'est celui que
Chaussette. Pendant très longtemps, il y avait vraiment des gens qui m'ont dit dans la rue qui me disaient oh Chaussette.
C'est horrible.
Ça fait plaisir.
Et vos parents,
cette reconnaissance.
Et vos parents, comment ils ont réagi quand
ils se sont identifiés.
C'est une tradition familiale, c'est ça que vous êtes en train
ils
de dire.
Ils ont été rachetés du linge.
Ça a enfilé ses chaussettes.
Première expérience, premier film, un sujet comme ça. Est-ce qu'on peut en redouter?
Après, le film n'est pas que ça.
Non, mais
en effet, c'était vraiment une comédie, donc ils ont eu l'intelligence de. d'avoir du second degré par rapport à ça, quoi.
Non, puis c'est surtout c'est générationnel, quoi. Ça a marqué. Ça a marqué au même titre que le Péril Jeune l'avait fait.
Ouais, mais avant de le tourner, il faut aussi avant. Se dire que. Bon,
ah, tu sais pas. Tu sais jamais avant de tourner ce qui va se passer.
Ah, moi, quand j'ai vu la coiffure qu'il allait me faire, j'étais désespéré. Hein, je vous cache pas que.
Ouais, parce qu'il faut être. Ça va, mais... Il fallait être moche pour ce film, en fait. Il fallait mais vraiment être.
Rien dans le scénario n'expliquait que j'allais devoir avoir. Il m'avait mis des pompes du 48. Parce qu'il trouvait que c'était marrant que les adolescents, ils avaient des grands pieds. Parce que le reste du corps. Les pieds avaient grandi avant le reste du corps.
Exactement.
Ça grandit pas en même temps.
Le reste du corps n'a pas encore grandi. Toujours dans ces mêmes années, on est en 2008-2009, Félix Moati, vous écoutiez. Black Lips.
Les Black Lips.
Ça sort d'où?
Ça sort du, je crois que c'est un groupe du Kansas ou du Texas.
Non mais
Texas.
Pour vous découvrez ça comment?
Bah, oui. En fait, moi à l'époque, je voulais quand même être une rockstar. Et ce qui n'a pas du tout marché.
J'aime beaucoup le quand même dans la phrase. Rockstar, ça me choque pas, mais quand
j'ai
même.
Créé un groupe de rock, d'ailleurs, qui s'appelle le Hammock Music Club. Je me suis fait tatouer le nom sur le bras et ils m'ont viré au bout d'une semaine parce que j'ai aucun sens du rythme. Et les Black Lips.
Et vous avez toujours le tatouage?
Ouais, j'ai, évidemment, ouais.
Mais vous avez gardé votre bras malgré le.
J'ai hésité. Bah, de toute façon, ça c'est le bras de l'échec. Hein. J'ai que des tatouages que je devrais effacer maintenant. Et,
c'est incroyable.
Non, c'est pas vrai en plus.
C'est drôle. Ça serait drôle. Ça c'est un bon pitch. Hein. Le mec, fonction de l'endroit où il met le tatouage, il se passe tel ou tel.
Le bras de l'échec.
Le bras gauche, le bras de l'échec.
Ou alors faut prendre un chat, vous l'appelez Amok et puis on est tranquille quoi. Ouais. C'est pas un.
Voilà. On peut buter le chat.
Voilà, je peux faire ça.
Non, il peut avoir une autre vie surtout. Vous jouiez de quel instrument?
Là, je faisais de la basse. Mais j'en avais, enfin vraiment, j'avais aucun talent quoi. C'était vraiment.
Ah, vous le reconnaissez vous-même?
Ah, c'était atterrant. Non, ouais. Mais, ouais. La musique, c'est pas pour moi. Mes parents, ils m'interdisaient de chanter, jouer les anniversaires à table quand j'étais petite. Ils me disaient, toi Félix, tu tapes demain.
C'est dégueulasse.
Tiens, Félix, va sous la table. Mais c'est pas la Gaëlle des Rois. Va sous la table quand même.
Et vous, Félix, c'est aussi premier rôle, premier film, LOL de Lisa Azuelos, ouais. Avec Sophie Marceau, Christa Terré. C'est l'année où vous vous rencontrez finalement avec tous les deux, avec Vincent. Mm-hmm. En fait, vous vous êtes dit, je tente une expérience. Mais là encore, c'est pour draguer les filles. Ça revient tout le temps quand même, cette histoire de drague.
Bon merde, je vais passer pour un gars bizarre.
Leïla, c'est tous les garçons, c'est comme ça.
Mais non, on peut faire des choses.
Non, mais j'avais 17 ans.
Et c'est vrai que j'avais la chance d'avoir tous les garçons.
Non, je suis sûr que Mathieu Capella, il fait pas du cinéma pour draguer les filles.
Tu parles.
Mais il est bien plus intelligent que moi.
Voilà.
C'est pire, il fait ça pour boire de l'alcool, c'est moche.
Non, mais voilà.
Non, mais en fait, j'avais la jambe dans le plâtre, j'avais traversé une verrière, en fait, je m'étais coupé le tendon rotulien. Et du coup, c'est très douloureux. Et du coup, j'étais un peu immobilisé. Je suis quand même allé à un cours de théâtre et le prof de casting, le prof de théâtre qui s'appelle Nicolas Parienti nous a inscrit au casting de LOL avec tous mes potes et tout, et j'ai été pris.
Donc c'est par défaut, enfin c'est involontairement, c'est même pas vous qui avez choisi quoi.
Après, je pense que j'avais envie de jouer quand même, j'avais déjà le plaisir un peu du déguisement, je me déguisais beaucoup quand j'étais petit.
Et ça faisait pas très plaisir à votre père, je crois, du coup, se dire que vous allez devenir comédien potentiellement, ouais.
C'est normal, les parents ils ont peur pour les enfants quand ils s'engagent dans ce genre de voie, mais c'est le métier d'un père de s'inquiéter quoi. Et donc, non rémunéré, c'est ça. Et donc voilà, mais après, comme j'ai commencé à faire d'autres films, la confiance commence à s'installer. Ouais.
En 2012, vous écoutiez Vincent Lacoste.
D'enfoiré, si vous trouvez du boulot.
C'est génial, ça.
Attends,
on va arrêter la musique parce qu'il faut réexpliquer ce qui s'est passé.
Contextualiser un peu.
Voilà, exactement.
Il est extrêmement fan de cette chanson.
Il a monté un restaurant.
C'est Francky Vincent.
Francky Vincent. Ouais.
Francky Vincent a monté un restaurant et il s'est fait entuber quoi globalement par son personnel qui était des malpropres en fait, parce que alors soit ils baisaient dans les cuisines, soit ils escroquaient, ils détournaient
l'argent,
la caisse,
voilà.
Et du coup il a fait une chanson un peu coup de gueule, un peu pour dénoncer le
il en a viré il a été convoqué au prud'homme par le personnel,
ouais.
Et sa plus belle vengeance c'est cette chanson, mais écoutez les paroles, c'est juste dingue.
D'enfoiré, si vous trouvez du boulot, n'écrivez pas dans votre CV de merde que vous allez travailler chez Francky, bande de malpropres.
Faut se dire que tout est vrai.
C'est ça qui est génial. Bande d'enfoirés, si vous trouvez du boulot, n'écrivez pas dans votre CV de merde que vous avez travaillé chez Francky, bande de malpropres.
C'est génial.
Avec les cœurs,
les cœurs.
Écoute,
c'était un rêve à réaliser.
Avec un personnel de merde.
Francky Vincent, le restaurant, c'était un rêve à réaliser.
Avec un personnel à chier, qui a vraiment trop fait chier.
société qui m'a fait les travaux.
C'est pas, c'est, ça pourrait être une parodie, un sketch. Ah oui. Je sais pas.
Ça a quand même été écrit en un quart d'heure. Quand même.
Mais c'est génial. Oui, oui. Sur l'énervement.
Et vous, Vincent, on vous retrouve à cette époque-là en 2012 sur scène avec Édouard Baird au Théâtre Marigny dans la pièce À la Française.
On écoutait beaucoup cette chanson d'ailleurs.
C'est vrai. Et là aussi, Édouard Baird, on parlait tout à l'heure de Benoît Poulvord. Édouard Baird, c'est aussi dans la tradition des comédiens, un personnage en dehors aussi de la scène.
Ouais, carrément. Bah, Édouard, on s'était rencontrés en fait pendant le tournage d'Astérix. Et moi, j'avais 18 ans, j'étais un peu impressionné. Et puis, il m'avait un peu paternisé, quoi. Donc,
j'ai l'impression que tout le monde fait ça avec vous, c'est fou.
Bah, non, mais là, non, non, il y a Édouard.
Bah, si, de par Dieu, tout à l'heure.
Non, ils m'ont pas paternisé. Bah, non, on s'est bien entendu, quoi.
Dysfonctionnel, ça.
Édouard, si, Édouard, c'était. On a passé 6 mois en Hongrie. Donc, c'était génial. Mais
il est de bons conseils?
Ouais, carrément. Mais il est de bon conseil parce qu'il donne pas vraiment de conseils. C'est ça qui est génial, quoi. C'est que juste à l'observer, moi, je suis assez fasciné par Édouard, quoi. Déjà, c'est quelqu'un qui est d'une drôlerie hallucinante et qui est. Enfin, il a la classe, quoi. Moi, vraiment, c'est le gars le plus classe que je connaisse, quoi. Franchement, il est.
Et ils sont nommés tous les deux dans la catégorie du meilleur acteur cette année. C'est ça.
Ouais. Il essaie de me faire un pot de vin déjà.
Quant à vous, Félix Moitié, vous écoutiez.
C'est plus dark que.
Ouais, c'est plus dark, ça.
C'est jeune mort.
Tom Waits.
Et on vous retrouve, Félix, à l'affiche de Télégaucho.
À cette époque-là,
ouais. De Michel Leclerc, qui vous permet d'être nommé au César dans la catégorie meilleur espoir masculin. C'était en 2013, l'année d'après. Et vous êtes un peu étonné de vous retrouver sur le tournage de ce film aux côtés d'Éric Elmosnino, d'Emmanuel Béart. Vous vous dites même il y a une erreur de casting.
Je pense que malheureusement on se dit tout le temps qu'on devrait pas être là, quoi. Et puis
on n'arrête pas de se le dire, ça, jamais.
Ouais, c'est pas une question d'imposture ou tout ça, parce qu'à un moment donné, il faut accepter et bien admettre que c'est notre métier. Mm-hmm. Mais on se dit, en fait, il y a la pression d'être à la hauteur, quoi. On a envie de rendre honneur au choix du réalisateur, donc de rendre hommage, quoi, au choix du réalisateur. Et Michel Leclerc, il a été très très important pour moi parce qu'il m'a appris l'importance de la comédie. Et, et ça, c'était génial. C'était un tournage émerveillé, quoi.
Et 2012, c'est l'élection d'Hollande. Ouais. C'est quoi être de gauche aujourd'hui en 2018?
Je pense que toute notre génération se pose la même question.
Ouais.
On est un peu égaré, à qui s'identifier?
2019,
J'ai l'impression qu'il y a Glucksmann, tout ça avec Place Publique, là, ils sont en train de faire des choses intéressantes, mais je sais pas à qui ça s'adresse. J'ai voté Benoît Hamon. Je crois que je suis le seul.
C'est le seul?
Ah non, on est deux.
Non, il y a d'autres personnes.
Oui, mais apparemment, Vincent ne voulait pas spécialement que vous citiez cette participation.
Non, pas du tout.
Il s'est écarté du micro, il a fait non, mais je.
Je sais pas qui s'identifie, c'est vrai qu'il.
C'est
quoi?
On a l'impression que la gauche s'adresse qu'au centre urbain, d'où la crise des gilets jaunes qui est parfaitement normale. Et donc, en fait, on ne sait plus à qui s'adresse la gauche d'aujourd'hui. Et pour quelqu'un qui est honnêtement de gauche, je pense que c'est un vrai problème. Et ça pose des questions morales.
Est-ce que ça veut encore dire quelque chose, droite et gauche?
Moi, je suis obsédé par la fracture qu'il y a entre Paris, la province, les zones périphériques. C'est-à-dire que c'est pas normal qu'il y ait des petits villages qui soient pas desservis. C'est pas normal que le service public soit pas partout sur le territoire.
Non, mais c'est pas normal aussi que dans la vie il y ait des valeurs essentielles humaines qui est une couleur politique. Que ce soit lutter contre le racisme, sauver la planète. Enfin, c'est pas obligatoirement des choses qui vont avec.
Non, mais il y a des points communs.
Pour qu'une société fonctionne, il faut qu'il y ait la redistribution des richesses. Ouais. C'est ça, peut-être, de gauche.
Voilà. Ouais.
Et moi, je crois à la redistribution des richesses. Vraiment, profondément.
Et l'héritage de votre père, alors, vous en ferez?
Mais j'en ai pas. Et non, c'est des dépensiers, mais pas.
C'est pour ça qu'il l'appelle tous les jours. Arrête de dépenser l'argent.
On va revenir à Deux Fils, ce premier long métrage, parce que vous avez commis un court métrage. C'est pas une insulte. Hein. Et d'ailleurs, Michel Leclerc, vous le remerciez au générique de Deux Fils.
Bien sûr. Je le remercierai toute ma vie.
Pour?
Mais l'importance de la comédie et l'importance de questionner la question précisément de l'engagement. Et c'est quelqu'un qui m'a appris qu'on pouvait parler des sujets de la société, se saisir du monde contemporain avec humour. Mmh. Et donc ça, c'est moi, je lui sais grâce de ça. Je lui dois énormément.
Marion Robin, merci d'être à ce micro depuis ce matin 7h. Vous êtes psychiatre pour adolescents. Non, on va tout raconter à l'antenne. On lui a demandé de venir, on s'est un peu trompé dans l'horaire et il lui a gentillesse de venir extrêmement tôt pour arriver à 11h50 à l'antenne. Donc, mille excuses, les yeux dans les yeux pour cette boulette. Ça ne se reproduira plus puisque la personne qui a commis cette faute est au chômage. Marion, vous êtes...
Une deuxième bouteille d'eau. Allez, c'est pour nous.
Vous êtes psychiatre pour adolescents à l'Institut Mutualiste Montsouris. Paris. Vous êtes l'auteur d'Ado désemparé, cherche société vivante aux éditions Odile Jacob. Comment vous avez trouvé ces deux fils, d'ailleurs incarnés par Mathieu Capella et Vincent Lacoste dans le film ?
Je les ai trouvés évidemment très touchants. Je suis tout à fait d'accord avec le terme de délicatesse qui décrit ce film. Il est très juste. Ce qui m'a touchée, c'est la force de leur quête, de leur recherche. Le fait qu'ils comprennent très tôt ils vont pas pouvoir demander plus à ce père-là, qui en plus est tout seul, à les élever, et que du coup, ils vont essayer de trouver des ressources à l'extérieur de la famille ou en eux-mêmes. Et donc, ils vont aller chercher, prendre sur eux, faire beaucoup d'efforts pour ça.
Alors, deux fils, comme l'a dit tout à l'heure Félix Moati, c'est vrai que le mot fils convoque immédiatement le père, parce que le film aurait pu s'appeler deux frères. Ces frères-là sont jaloux, sont tiraillés, il y a de l'amour aussi entre eux. Ce sont des liens, je sais pas ce qu'on va dire, normaux, traditionnels. Deux frangins, il y a toujours de la jalousie, il y a toujours de l'envie et de l'amour.
Bien sûr, c'est le lien humain. L'ambivalence, c'est totem et tabou. Hein, la citation dans le film est intéressante. C'est ça, c'est l'amour et l'hostilité mêlée, l'amour et la haine. L'amour, c'est les deux extrêmes de ce qui est fondateur du lien. Donc oui, bien sûr, c'est de la rivalité. L'envie, alors l'envie, c'est plus immature que la rivalité. L'envie, c'est je veux ce que l'autre a et je vais l'obtenir. Alors, dans une société où l'avoir est une valeur dominante supérieure à être, du coup, ça paraît un peu normal, l'envie, je vais prendre ce que l'autre a, etc. Mais il faut quand même voir que c'est un mécanisme assez archaïque. Et alors que la jalousie, c'est déjà un petit peu plus élaboré dans le lien. On est bien différencié dans la jalousie. Et voilà, on est désireux d'être un peu comme l'autre. Mais voilà, oui, c'est l'envie, la rivalité, l'envie et la jalousie.
Alors, je disais que ça aurait pu s'appeler deux frères, mais en l'occurrence, ça s'appelle deux fils parce que on est à vie les enfants d'eux. C'est-à-dire qu'on a ce poids, cet héritage qui est en permanence, quel que soit l'âge que l'on ait d'ailleurs, est toujours présent.
Bien sûr. Bah oui, c'est à vie. Et c'est à vie.
C'est lourd à porter cet héritage-là quand on en est conscient, ou est-ce qu'il faut au contraire s'en débarrasser, prendre un peu de recul et ne pas rester la fille d'eux ou le fils d'eux.
Ou travailler toute sa vie pour son père ou pour sa mère.
Mais en tout cas, il me semble que c'est tout l'enjeu justement de l'adolescence, de partir de là où la place à laquelle nos parents nous ont assignés, de voir où on en est et ensuite pour pouvoir se projeter vers là où on veut aller et d'arriver à trouver ce compromis entre là où on m'a mis et là où moi je veux aller. Donc oui, ça c'est en ça que l'adolescence est aussi passionnante.
Le petit dernier entre guillemets de la bande, joué par Mathieu Capella, est apparemment le plus fort, en tout cas celui qui n'a peur de rien. Ça aussi, c'est le propre de l'âge ou c'est une forme de caractère? Parce que on se demande aussi quelle est la force de l'éducation, puisque ce sont deux enfants qui ont donc la même éducation, qui ont le même parcours, mais qui n'ont pas du tout les mêmes caractères.
Alors oui, il y a le côté en apparence, moi qui me marque beaucoup dans mon métier, parce que je vois beaucoup d'adolescents qui effectivement arrivent à un moment de souffrance, un moment de crise très aigu. Et puis il y a beaucoup de parents qui disent il était fort, tout allait bien, il y avait aucun souci, l'enfant parfait. Et puis il décompense complètement au moment de l'adolescence. Et on voit dans ces situations-là, en creusant l'histoire, les événements de vie, etc., ce qui a été la situation de négligence parentale, entre autres, parce qu'il a pu se passer plein d'autres choses extérieures à la famille, bien sûr, mais puisque c'est un des thèmes du film, la négligence parentale, c'est une forme de situation tout à fait qui peut générer tout autant de traumatismes que les autres formes de violence qui peuvent être les abus physiques, émotionnels, sexuels, etc. Du côté de la négligence, on est plutôt du côté du défaut relationnel, de moindre relation,
oui,
moins affectif.
Négligence, ça peut laisser penser qu'il y a une forme d'abandon et je m'en occupe pas.
Quoi. Alors oui. Là, c'est la négligence rejetante activement.
Voilà, il y a deux trois scènes dans le film où en effet, il préfère aller au cinéma avec sa maîtresse. Oui. descend le gamin dans la rue en disant balade-toi.
Il tient pas son rôle, quoi. Celui qu'on imagine a le rôle du père.
À côté de ça, les parents ne savent pas non plus s'ils doivent être omniprésents, voire étouffants avec les enfants, ou au contraire les laisser libres. Là aussi, il y a un problème peut-être de génération et de période. On a le sentiment que les parents aujourd'hui sont d'abord connectés. Les enfants envoient des SMS pour dire je suis là, et à tout moment les parents peuvent joindre les enfants, ce qui n'était pas le cas il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, où les enfants se barraient et puis c'était rentre à telle heure, point, et on les traçait pas. Alors qu'aujourd'hui, c'est pas pareil. Est-ce qu'on les aide, là, les enfants?
Pas toujours. Il y a une vraie question d'époque, parce qu'il y a beaucoup de parents qui disent « Non, mais c'est bon, ça marchait, c'est l'histoire du coup de pied au cul. »
Bah oui.
Mais derrière le coup de pied au cul, en dehors du bleu, il y a aussi la détermination parentale. Et ça, c'est quelque chose de très important, la détermination. Par contre, effectivement, on peut montrer la détermination autrement que par le coup de pied au cul.
Que par la violence, oui.
Exactement. Sûr. Du coup, il y a aussi un effet d'époque qui est que... il y a beaucoup de parents qui disent c'est bon, on n'a pas vécu la guerre, ils n'ont pas vécu la guerre, et du coup il y a une question de logique entre la guerre et la paix. Comment on peut penser le besoin de l'enfant et la primauté du besoin de l'enfant dans la société, tout en pouvant raisonner sur le fait qu'on soit dans une société en paix et pas en guerre? Parce que on peut se dire il y a un siècle, c'est les enfants morts pour la France, les enfants sur les stèles de tous les villages en France. Et puis là, on se dit, c'est bon, ils vivent quand même pas ça, alors on va pas être là à tous leurs petits besoins et tout. Mais en fait, il y a une vraie question d'ajustement à ce qu'est les besoins, à ce qu'ils sont les besoins fondamentaux de l'enfant, c'est-à-dire le besoin d'être reconnu pour ce qu'il est, le besoin d'un parent de s'ajuster à là où il en est, lui, en temps réel, et pas la projection parentale sur, oui, mon enfant, quelle étude il va faire, etc., et narcissiquement. Et dans le film, la question du narcissisme du père, c'est quelque chose de très actuel.
Mais parce qu'il y a des parents qui n'ont pas envie non plus de sacrifier leur vie pour leurs enfants, parce que ça aussi, c'est une époque où avant, les parents, d'un instant, étaient parents, c'était fini. Ils n'avaient plus aucun rêve, plus aucun risque dans leur vie. Là, ce père, en l'occurrence, risque sa vie de notable, docteur, installé avec des revenus pour devenir
artiste. C'est pas rien, il change pas de voie.
Et en plus, pas encouragé par les autres en disant, mais non, ce que t'écris, c'est pourri, mais il veut vivre sa passion. Peut-être parce que le signal d'avoir perdu son frère lui lance un carpe diem aussi, avec profite de chaque instant, parce que voilà, l'horloge tourne et il faut pas passer à côté de ses envies et de ses passions. Je sais pas d'ailleurs, Félix, si c'était ça le point de départ d'ailleurs, la mort comme étant un déclic de vivre différemment sa vie.
Il y a un peu de ça, mais moi ce qui me touche beaucoup, c'est que le père... En fait, je voulais vraiment créer un personnage qui cherche des regards qui, par définition, ne viendront plus parce qu'il est orphelin lui-même, il perd ce frère et il cherche que le regard de ses morts. Et en fait, il y a un moment de bascule où il va s'ouvrir vers le monde des vivants, le père. Et le monde des vivants, c'est ses deux fils. Et c'est un amour fou.
Et l'amour à tous les niveaux, que ce soit pour le collégien Mathieu, joué par Mathieu Capella, que ce soit pour l'étudiant joué par Vincent Lacoste ou par le papa, on sent bien que les femmes chez ces trois hommes ont une influence, Marion. Et est-ce que l'éveil de l'amour, de la sexualité chez les adolescents est un passage encore plus délicat à vivre aujourd'hui qu'avant?
Et puis il n'y a pas de mère dans le film.
Voilà, c'est ça.
Pas figure maternelle aussi.
Elle est très présente par son absence, en fait. Elle est très présente.
D'ailleurs, Noémie Lvovsky, je pose la question, j'ai toujours pas compris si elle était la sœur ou la belle-sœur, en fait.
Ah, c'est la belle-sœur, c'est la femme du frère.
D'accord, c'est ça.
C'est la tante.
Ok. Non, parce que elle est extrêmement proche, c'est ça.
Mais la veuve qui continue de l'aimer infiniment malgré.
Voilà,
c'est ça.
Et cette question de l'absence, il y a beaucoup de familles, la moitié des enfants, des adolescents que nous on voit ont des parents séparés aujourd'hui. Mmh. Donc quand on discute de la question de la parentalité, c'est comment je porte seul, en plus, quelque chose au lieu de porter à deux. Alors déjà que nous on dit il faut un village pour élever un enfant selon le proverbe africain, quand en plus on n'est que deux. Puis quand on devient seul, ça fait qu'il y a à chaque fois autant de relais impossibles à mettre en place pour les adolescents. Alors qu'en fait, il y a beaucoup de parents qui disent « mais comment on voit que nos adolescents vont mal ?» C'est pas à l'œil nu comme ça, c'est pas si évident. Et c'est vrai que c'est souvent les regards latéraux qui permettent de le dire. C'est les oncles et tantes, c'est les cousins, c'est toutes les personnes autour du parent à qui l'adolescent va pas forcément se confier à ce moment-là.
Ils ont aussi tous les trois un problème de communication entre eux. Comment ne pas rompre cette communication entre adolescents et parents ? Qui est la source de beaucoup de problèmes.
Je crois que c'est... Alors, tout à l'heure, il y avait ce moment-là sur « je suis pressé », c'est prendre le temps, c'est Saint-Exupéry, c'est le temps qu'on passe sur la rose, avec la rose qui fait, qui fait sa beauté. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est quand même très... Enfin, les enfants, les adolescents payent lourd notre rythme de vie, le rythme de vie des parents. Les parents payent eux-mêmes lourd. Mais voilà, il faut reconnaître que nos valeurs sont... Les valeurs d'aujourd'hui sont peu compatibles avec les besoins des enfants et des adolescents.
Le film, il pourrait y avoir un autre film qui s'appelle « Deux sœurs ». Autrement dit, est-ce que l'adolescence de deux filles n'a rien à voir avec l'adolescence de deux garçons, ou est-ce que le problème de l'adolescence est finalement le même garçon-fille confondu?
Non, bien sûr, il y a des spécificités, mais après, on pouvait imaginer d'autres...
Un fils, une fille.
D'autres scénarios, voilà. On pourrait imaginer, selon les clichés du moment, que le grand frère aurait voulu se montrer fort et protecteur pour sa petite sœur, que la grande sœur, selon les clichés, aurait pris soin de son petit frère. Enfin,
remplacer la mère absente,
ouais,
et ainsi
voilà,
de suite.
Oui, voilà, tout à fait. Mais à côté de ça, les questions d'identification à un parent fragile, à un parent malade, et les questions de loyauté envers un parent, elles sont aussi très indépendantes du genre.
Merci Marion Robin, vous signez, je rappelle, chez Odile Jacob, Ados désemparés cherche société vivante. Rien que le titre déjà donne envie de lire, c'est aux éditions Odile Jacob. Bonjour Tanguy Pastureau.
Bonjour Nagui.
L'écologie en France en ce moment, on n'y pense plus trop.
Non, c'est fini. Il y a 6 mois, on nous disait que c'était la fin du monde. Là, tout va mieux. Si ça se trouve, ils ont eu des bonnes nouvelles. On a dit à Macron, certes, la moitié des pays vont être submergés par la montée des eaux, mais statistiquement, ça fera moins de cons. Sur toutes les mesures écologiques, l'État recule. Et même si nous, pendant ce temps-là, on avance,
Ouais, faut se méfier quand même de ce genre d'infos. On va en parler après, justement, les infos de midi. La bande originale avec Léna Canobudamic, Marina Rollman,
bonjour.
Tanguy Pastureau, Albert Algout, Daniel Morin.
Bonjour toi.
Et nos invités, Félix Moati et Vincent Lacoste.
Bravo.
Corrigez-moi. Eh
ben. Oui, si je me trompe, t'es le premier à le faire.
Jamais contre une petite correction.
Ça fait du bien, ça remet dans le droit chemin. Parlons de ce film Deux Fils, premier long métrage en tant que réalisateur, qui sortira le 13 février de Félix Moati, Joseph et ses deux fils, Joachim et Yvan. Une famille très soudée jusqu'à ce que des événements, notamment la vie, la mort, la remise en cause viennent un peu tout chambouler, parce qu'on se dit oui, tout allait bien, et la maman n'est pas là.
Et non.
Et non, on n'en parle pas du tout.
Bah en fait, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que je trouve que l'absence envahit le cadre, du coup.
Elle brille par son absence.
C'est ça, moi je me suis rendu compte au montage,
oui,
en fait.
On ne sait pas si elle est partie, si elle a quitté, si elle
à
est morte.
À un moment donné, il y a un élément d'information, mais je ne voulais pas que ce soit un sujet. Et en fait, je me suis rendu compte au montage que j'avais fait un film sur le manque et sur l'absence. C'est trois hommes, certes, mais trois hommes qui, à moitié, à qui manque la femme aimée, précisément.
Et puis, on a dit tout à l'heure que les trois étaient en crise. On peut dire crise mystique aussi, parce que...
Pour le petit, ouais.
Ouais, le petit, puis le fait que le décès de son frère fasse chambouler aussi la vie du papa joué par Benoît Poulvord. Donc, c'est pas uniquement le « je vais pas bien ». Il y a aussi « où allons-nous ? Qui sommes-nous ? Que faisons-nous sur Terre ?» Et ainsi de suite.
Le personnage de Vincent Lacoste, votre personnage, vous, c'est une déception amoureuse aussi. Donc, tout d'un coup, ça crée un rapport à l'amour comme une grande idée et non plus comme une réalité sur comment est-ce qu'on parvient à toucher du doigt finalement cet amour ultime.
Mmh. Ça c'est sûr que de toute manière ils ont tous un rapport à ça assez fantasmé en tout cas puisque aucun d'eux ne le vit en fait quoi, donc forcément après c'est fantasmé quoi.
Ouais c'est fort ça, aucun d'eux ne vit et pourtant presque inconsciemment voilà par la force de l'amour paternel fraternel chacun veille d'une manière plus ou moins adroite ou maladroite sur l'autre.
C'est ça, il y a une sorte de cercle de bienveillance les uns sur les autres, ils veillent les uns sur les autres. Je serai le protecteur de mon frère en fait.
Ouais.
Ils se disent ça tout le temps quoi.
Deux fils au cinéma, ça sera le 13 février prochain. Vincent Lacoste et Félix Moati sont nos invités jusqu'à midi et demi, mais d'abord voici Tanguy Pastureau. Il est là, c'est lui. Tanguy, la transition écologique, c'est fini ?
Oui, Nagui, les scientifiques ont dû se tromper. C'était de la fake news. S'il fait 40 l'été à Valenciennes, c'est juste un hasard. Le plastique, c'est top. Et fini l'hybride. Là, j'ai repéré une petite Fiat Panda diesel de 97 sur le bon coin. Je vais la prendre. Il n'y a pas de raison qu'elle parte au Mali et que dans 10 jours, je vois Amadou et Mariam en photo dans Télérama, la tête enfoncée dans le tronc de l'arbre qu'ils viennent de percuter. Mais on l'a, notre nouveau Michael Jackson. C'est Macron. Lui et son gouvernement, ce sont tous des bras cassés, mais ils ont leurs jambes, donc ils font du moonwalk. Les mecs parlent pendant 7 heures de suite de la possibilité, un jour, peut-être, si Dieu veut, Inch'Allah, de mettre en place un référendum, et pendant ce temps-là, reculent sur tous les sujets en matière d'écologie. Et personne n'en parle. Les chaînes info filment les 4 derniers gilets jaunes en train de cuire des croustilles battes au feu de bois sur le rond-point d'entrée d'agglomération d'Amiens. Alors, je vais être clair, les gilets jaunes, pour moi, c'était nécessaire, puisque la précarité en 2019, c'est moins supportable que l'ensemble des chansons d'Hervé Villard jouées à la flûte à bec. Mais cette cohue fait qu'on s'occupe pas du sujet numéro un, notre survie. Là, on joue notre peau, la Terre part en vrille. Cette planète ressemble de plus en plus au cerveau de Francis Lalanne. Un seul exemple, l'Australie, ce continent formidable qui en 2000 nous a donné Kylie Minogue en micro-short doré. Les Australiens, en 2 mois, ont tout eu. La plus grosse sécheresse de l'histoire, des cyclones, des inondations. Là, ils ont des crocodiles dans les rues, et pas sous forme de sacs comme à Paris Avenue Montaigne. Des vrais. Vous sortez promener votre teckel, vous revenez sans le teckel. Et sur une jambe, parce que le croco, le teckel, c'est juste l'entrée. Mais Trump à l'autre bout du monde, ni le réchauffement climatique parce qu'il neige dans le Montana. 3 flocons, ça le rassure. Hein, il a pas besoin d'un psy. De toute façon, personne voudrait s'en occuper. C'est un temps complet sur la semaine. S'il a juste une boule à neige dans sa poche, c'est bon. Mais notre Macron, c'est le même. Il a renoncé à tout. La fin du glyphosate en 2021, ce n'est plus d'actualité. Nicolas Hulot va se suicider en s'étranglant avec son collier à dents de requin de surfeur bourré. Le 24 janvier dans la Drôme, lors d'un débat avec les Français, son 30e. En un mois, il a plus causé que Lucchini depuis le jour de sa naissance. Macron a dit, si on interdit le glyphosate, on tue certaines filières. Donc dans 20 ans, on sera toujours chargé de substances, juste parce qu'on a partagé un poireau avec son neveu. C'est-à-dire qu'un pot-au-feu, c'est des légumes au glyphosate, plus de la viande polonaise avariée. Une fourchette et vous avez un drapeau blanc qui vous sort de la bouche, c'est votre estomac qui vous dit, mec, je renonce. Donc glyphosate, on garde. Les paillets couverts plastiques, ça devait être interdit dans 10 mois. Le Sénat a fait repousser d'un an la date de fin 2021. Les mecs pioncent H24, mais quand ils se réveillent, c'est pour faire des conneries. Ils ont la même vie que des bébés. Pourtant, 70% des déchets marins sont dus au plastique à usage unique. Clairement. Vous ouvrez une baleine, dedans, c'est le Leclerc de Reims. Il y a tout. Du mini-doux, des touillettes, des tupperwares. Limite, à la sortie de la bête, on vous demande votre carte de fidélité.
C'est une catastrophe, mais rassurez-moi, ces reculs sont les seuls.
Non, le malus auto qu'on devait mettre aux propriétaires de grosses voitures, mecs qui font la même taille que nous, donc ça va, ils rentrent dans un kangou, hein, à l'arrière avec Mamie Hortense qu'on dispose à l'horizontale parce qu'avec sa hanche on n'arrive plus à la plier. Et ben ça devait se faire l'été dernier, c'est repoussé à 2020. Pire, selon Le Monde, le ministère de l'économie voudrait que les diesels récents aient le droit à la vignette critère 1 comme les hybrides. Il y a 3 mois, les mêmes mecs vous disaient le diesel c'est fini, ils sont moins structurés psychologiquement que Joachim Sonforget sous acide. En fait, 38 000 emplois sont liés au diesel, donc faut pas chercher. Les mecs sont déjà sur l'élection de 2022. Ils veulent froisser personne. Ils veulent avoir que des amis qui leur font des bisous. Ce sont pas des décideurs, c'est une année Erasmus. Alors Emmanuel Wargon ce matin a dit non, non, ça se fera pas. Mais enfin, qui est Emmanuel Wargon? Un autre recul, la faune. François de Rugy, l'écolo, met dans sa tête, avait prolongé quand même d'un mois la chasse aux oies cendrées. Les bêtes sont en pleine période migratoire. Elles se font buter. Si nous, on nous tirait dessus en août quand on part au Lavant 12 bronzer les deux côtés de la raie, on serait vert. Donc le contraire de Rugy qui est tout sauf vert. Il y a eu une consultation publique à propos de ces oies. 52 000 personnes sondées, 53% se sont opposées au prolongement du temps de chasse. Mais il y a dû avoir un mec d'un lobby des chasseurs qui compte plus que les 52 000 qui étaient contre. Et c'est passé. Donc moi, Marlène Schiappa sur C8 avec son paperboard. J'ai envie de lui dire, madame, vos feux de Véléda, vous les bouffez en sauce un par un, ça vous fera une langue arc-en-ciel, on vous prêtera les cornes qu'on a à force d'être cocu, vous serez une licorne. Parce que quand on s'exprime, ça débouche sur rien. De Rugy, pour vous citer le bonhomme, c'est une girouette. Vous voulez savoir d'où vient le vent avant de vous lancer en planche à voile, vous le regardez. Avant d'être ministre, il se battait contre l'utilisation du flashball. Là, plus rien, juste parce que Castaner, le samedi, a son stage de balle-trappe dans la rue. Le Conseil d'État hier, quand même, a invalidé la prolongation de cette chasse, donc dans le cul, Rugy. Mais le Conseil d'État a prolongé la chasse à la glu. Très courageuse, la chasse à la glu. On parle de types de seulement 90 kilos qui ont à affronter des grives aux pattes collées. Prise de risque. Donc Emmanuel Macron et la fin du monde team vous souhaitent une bonne fin de quinquennat. Au train où on va, il n'y en aura pas 60 derrière.
Merci Tanguy Bassereau. La bande originale, Nagui, sur France Inter. Ça calme.
Bien envoyé.
Félix, pensez quoi d'ailleurs de tout ce qui est planète, écologie et devenir de notre beau monde?
Ah bah, en fait, c'est juste un principe de réalité et ne pas avoir de
conscience.
D'angoisse écologique, c'est juste du déni en fait. C'est de la psychose. C'est comme Donald Trump, quoi.
Non, non, mais lui, c'est de la bêtise. Non,
là, c'est du déni. Et c'est pas que de la bêtise, puisque ça sert à...
Non, c'est de la bêtise, parce
politique.
Que non, le terme de réchauffement climatique, il l'emploie au sens simplement de la température, et, pas de dérèglement climatique. Bah, une tempête de neige, il dit, ouais, il est où le réchauffement? Mais il faut être teubé pour faire
ça. Mais je pense que malheureusement, il est pas bête, et que ça sert un système, son système politique. Donc je pense qu'en fait, c'est très sciemment.
Et ça sert forcément peut-être des lobbies, des intérêts financiers, des industries de pétrole et gaz et de consommation.
C'est ça, ouais.
Mais la surconsommation, il y a un moment où la planète ne va pas pouvoir la supporter longtemps.
Ah, c'est certain, on oublie qu'on est juste un peu des invités, quoi.
De faire boire un adolescent, un collégien dans un film...
Ah, ça n'a rien sur la... Ça a pas d'effet sur la couche d'ozone. Hein.
Non, ça aura effet sur sa santé.
Et non, ça c'est certain.
Même pas.
Sa santé.
Je tiens à dire que si la DAS nous écoute, c'était du faux alcool. Hein.
Non, je blague. Mais pardon, le réflexe, moi je me dis que les ados sont peut-être plus en contact, ou autant en contact en tout cas, avec un joint qui tourne dans la cour de récré qu'avec un verre de rouge, mais vous avez pris que le prisme de l'alcool.
Ouais, c'est vrai, parce que je trouve ça plus joyeux déjà, et puis en fait je trouvais ça marrant qu'il y ait un petit de 13 ans.
Vous savez ce que Coluche disait, hein, le problème avec l'alcool, c'est qu'il y a des dealers à tous les coins de rue.
Oui, que le vin n'est pas un alcool sans les autres, quoi.
C'est ça, exactement.
C'est considéré comme tel.
C'est le ministre de l'Agriculture.
Ouais, qu'il a dit il y a une petite semaine.
Il a dit quoi? Pardon.
Que le vin n'était pas un alcool comme les autres. Oui, mais forcément, parce que
extrêmement français,
le financement,
le gars, voilà, gros français. mais je le pense aussi d'ailleurs. Mais, je trouvais ça marrant en fait que le petit de 13 ans ait plein de passions sophistiquées, parce que du coup ça crée de la comédie. Le mec fume, boit, est obsédé par le Christ, a une crise mystique, veut être agrégé de latin, c'est-à-dire qu'il est beaucoup trop grand pour son âge. Et comme Vincent lui dit dans le film, il devrait être cosmonaute ou footballeur à son âge, mais non, il a des passions sophistiquées.
Il faut être Poutine aussi, hein. Dictateur. Donc faut voir aussi les méfaits de l'alcool, là c'est la preuve. Ce qui est bon en tout cas, c'est de voir votre amitié réelle à tous les deux, Vincent Lacoste et Félix Moati, qui se traduit et transmet, j'imagine, sur une bonne ambiance sur le plateau, un plaisir de partager une aventure jusqu'au bout, quoi.
Bah après, faut être à la hauteur de l'amitié. Moi, c'est un sentiment, l'amitié, c'est une valeur qui m'est tellement chère.
Vous voulez pas la décevoir.
Je veux pas la décevoir. Donc
oui, exactement, il y a cette pression là en plus quand même quand on travaille avec un ami, quoi.
On peut se fâcher.
On peut perdre beaucoup de choses.
Normalement, ouais. Non, mais on peut tous dire, en tout cas, entre amis.
Ah, on peut tous dire. Bah là, en l'occurrence, c'est ça qui était chouette, c'est qu'on n'avait même pas besoin de se dire quoi que ce soit, d'ailleurs, parce qu'on se connaît très bien, donc on savait ce que...
Vous avez fait combien de projets ensemble, en tout?
4, je crois.
Ouais,
enfin, j'ai dit ça au hasard, mais...
Ouais, mais je crois que c'est ça.
Ouais, bah ça a tenu, donc il n'y a pas de raison que ça ne tienne pas.
Bien sûr, et puis même dans la vie, je veux dire, dans la vie, on se voit quand même beaucoup.
Oui. Ce qui est bien, vous voyez, Daniel Morin, c'est que cette amitié sincère, l'amitié sincère entre Félix et Vincent, ça peut exister dans cette grande famille du cinéma. Il peut y avoir de l'admiration, il peut y avoir de l'entraide. Et puis voir Félix et Vincent ce matin, c'est une belle image, ça fait du bien. J'ai même envie de dire, c'est émouvant de voir...
Putain, j'ai le cœur qui lâche, j'ai le fondement qui palpite. Oh non, maintenant c'est le contraire. Oh, nom de Dieu, pour l'amour de Christophe Maé, par le Saint-Slip de Michel Sardou, mettez-vous en grève, monsieur Guy, par pitié, mettez-vous en grève. Si ce n'est vous, au moins votre bouche, votre clapet à cliché qui me foudroie d'ennui et de malaise. Je suis à deux doigts de commettre l'irréparable, de décapiter Marina et prendre sa tête à deux mains pour vous marteler de coups de boule suisse. J'ai la nausée, je transpire du maroilles, j'ai la langue qui sent le pourri, j'ai les dents qui suintent. Et l'amitié, ni ni ni, l'admiration sans jalousie, ni ni ni, et que Félix et Vincent sont émouvants, gna gna gna. J'enrage, je tempête, je suis tout courroucé. Alors oui, ok, je sais, vous en connaissez un rayon en cinoche, comédie, musical et tralala. Vous êtes beau comme Roméo avec Juliette, vous êtes solidaire comme Bonnie avec Clyde, vous êtes uni comme Rox avec Rookie, mais vous êtes con comme Jackie sans Michel. Parce que, mon petit bonhomme, cette grande famille du cinéma, pour la recevoir régulièrement à ce micro, eh bien, c'est une belle bande de saligots, envieux, méchants, jaloux et pervers. Alors oui, je sais que cette méchanceté quasi inhérente au métier est due à bien des facteurs, comme l'esprit de vengeance exacerbé par une enfance marquée du sceau de la maltraitance, ou bien encore par une folie chronique installée définitivement suite aux nombreuses syphilis non traitées. Mais bon, là, cette méchanceté, elle est anéantie tout espoir de bienveillance. Excusez-moi, mais quand vous dites que c'est une belle image, que c'est frais, que ça fait du bien de voir ce matin Félix et Vincent, ça en dit long sur vous, monsieur Guy, car ce qui saute aux yeux en voyant ces deux énergumènes côte à côte, c'est une haine aussi puissante que partagée, qui, si on est t'es pas là, mon petit bonhomme, se transformera en bain de sang sous le regard embué de larmes de la bande originale. Absolument. Comme le dit très justement Jean-Pierre, l'aîné des frères frère Dardenne. Le cinéma, une grande famille. Ha ha, mon cul. Désolé, mais une fois encore, monsieur Guy, vous avez dit
n'importe quoi. Voilà.
Merci d'aller voir. La bande originale avec Nagui. Et Benoît Poulvord dans Papa. Alors comment est venue l'idée? On peut pas dire que vous cherchez à reproduire le schéma personnel de Serge Moati. On n'a pas vraiment la carrure, la rondeur de.
Avec Benoît.
Si.
Non, mais c'est pas ça. Mais il me fallait pour jouer.
Mais votre papa, c'est un nounours qu'on a envie de prendre dans ses bras.
Ça, c'est sûr.
Mais oui, c'est évident.
Ouais. C'est je suis bien d'accord, mais
vous, c'est normal.
Poulvord me suscite une tendresse qui m'est familière, en fait. Quoi. Il a un truc. Et puis, je voulais que la légende précède l'acteur. C'est-à-dire que Poulvord, il y a plein de rumeurs sur lui. Ça dépasse sa seule fonction d'acteur. Et ça me plaît. Quoi. D'ailleurs, on me demande constamment est-ce que Benoît, il est facile à gérer? Alors qu'il est facile à gérer, Benoît, puisque c'est un bon camarade sur un plateau et qu'il aime jouer profondément. Donc voilà.
Non, mais c'est un sublime comédien.
Ouais.
Vous n'aviez pas peur que la notoriété l'emporte sur le caractère? Justement.
Mais il sait s'effacer derrière un rôle, en fait. Il sait, c'est sa grande élégance. Et je trouve qu'ils ont un truc en commun avec Vincent. C'est une sorte de nonchalance concernée, quoi. Mmh. Ils sont toujours un peu à côté de leur personnage. Donc, et ça, c'est très beau à filmer, quoi.
Le casting était fait dans votre tête au moment de l'écriture ou c'est un long
que Vincent.
Que Vincent.
Ouais, que Vincent. Que Vincent. J'ai écrit pour Vincent et si Vincent n'avait pas fait le rôle, par exemple, moi je l'aurais pas fait. Je me serais pas proposé le rôle. Je serais allé trouver un autre acteur. Mais c'est vraiment Vincent qui m'a donné envie d'écrire un film.
Et vous avez été tenté de vous trouver un rôle dans le film ou pas?
Non, pas du tout.
Ouais.
Parce que je fais.
Il n'y a
moi,
pas un caméo.
Que...
Vous êtes même pas dans
non,
le reflet
non, non.
D'une vitrine.
Non, mais il se trouve que moi j'ai voulu faire ce film pour apprendre à regarder et que j'avais pas envie de me regarder. Mais pour ça j'ai des miroirs. Mais
c'est pratique.
Du coup, j'avais envie d'apprendre à regarder d'autres gens que moi et qui m'enseignent en fait sur ma propre vie aussi. Donc c'est
comment on vit une telle pression, Vincent Lacoste, quand un ami, un acteur brillant comme Félix en plus prend des risques à faire sa première réalisation. Il est attendu au tournant avec toute la gentillesse due à ce métier déjà avec son
patronyme,
son nom de famille, avec son passé, son passif.
On dirait que j'ai fait de la tôle.
Oui, c'est ça.
Ces nombreuses condamnations.
Oui, il est recherché. Vous avez... Non, mais c'est une pression pour vous.
Oui, mais après, moi, je ne me suis pas posé toutes ces questions-là, honnêtement. Moi, quand j'accepte un film, je regarde le scénario, la personne qui le fait, et puis c'est tout.
Mais vous ne pouviez pas refuser.
C'est votre pote. Sincèrement, si.
C'est votre ami.
Sincèrement, si. Oui, mais le fait qu'on soit amis a fait que c'est son premier film. Mais je le connais et j'imaginais le cinéaste que ça pourrait être, quoi, parce que on a des références en commun et je sais que d'une certaine manière on veut raconter des choses en commun en tout cas. Donc là-dessus j'avais confiance en lui. Et puis le scénario était dément, donc j'ai pas eu à me poser la question. Si j'avais pas aimé le scénario,
quel écueil vous vouliez éviter, Félix Moati, dans votre film? Vous vouliez éviter d'être... Il y avait une chose, un travers...
L'esprit de sérieux. Toujours l'esprit de sérieux, le chasser dès qu'il arrive. Moi, j'aime le mouvement, la vitalité, le mensonge. Je trouve que c'est des bons arguments de comédie. Et donc voilà, je voulais que ne surtout pas faire un film statique, qui est constamment du mouvement. Mmh. Et surtout, pour moi, le plus dur, c'est d'effacer le travail et d'être simple, de faire simple. Je trouve ça extrêmement compliqué de juste filmer un visage. Donc ne jamais être au-dessus de mes personnages et de pas faire de mise en scène démonstrative.
Est-ce que la technique a été un problème? La lumière, la réalisation, la place de la caméra,
quand on fabrique
le son.
Un film, en fait, c'est un travail collectif. Moi, c'est ça que j'aime dans le cinéma, c'est que c'est un travail collectif. Donc on délègue des talents qu'on n'a pas. Et donc moi, je sais pas éclairer une pièce, je sais pas construire un décor, je sais pas prendre le son, mais sauf qu'il y a des gens extrêmement compétents qui savent le faire. Et c'est ça qui est beau dans le cinéma, c'est qu'on fabrique collectivement quelque chose.
Oui,
et que...
vous pouvez devenir dépendant justement de ces techniciens qui vont vous dire là on peut pas y aller parce qu'il y a pas la lumière ou parce que je peux pas faire le son.
Alors je les ai mal choisis dans ce cas-là. Non, c'est un dialogue perpétuel, c'est de la collaboration, c'est ça qui est génial.
Vous l'avez dessiné, ce film? Vous avez procédé en amont?
En amont, ça se prépare énormément. Et donc, j'ai écrit le scénario et je savais exactement les lieux, les décors où je voulais filmer. Parce que c'est un film aussi qui se passe à Paris, comme ça. Et où je filme un peu ma mémoire affective. Mm-hmm. Comme les frères Larrieux, par exemple, filment les Pyrénées. Comme Desplechin filme Roubaix. comme Scorsese Film New York. Enfin, attention, je me compare pas à tous ces réalisateurs.
Bah si, vous devez le faire.
Oui, c'est vrai que je viens de le faire. Et je vous ai dit que j'étais extrêmement bon footballeur.
Oui.
Non, mais c'est vrai que.
Où c'est Paris.
Et voilà, ils m'ont donné envie de filmer l'environnement que je connais, quoi. Ouais. Je me suis dit que c'était comme un pacte d'honnêteté avec les gens qui voyaient le film, même si les gens s'en foutent, hein, en fait. Mais voilà, moi, filmer ma mémoire affective, filmer le
où j'ai grandi. Et vous restez acteur, et vous restez comédien pour les autres, acteur pour les autres. Vous serez prochainement à l'affiche de Résistance. Quel est le film, le casting que faites-vous ?
C'est une sorte de biopic sur le mime Marceau que j'ai tourné avec Jesse Eisenberg, l'acteur du Social Network. Et on joue deux frères, en fait. Moi, je joue le grand frère de Jesse Eisenberg.
Et résistance, parce qu'il faut pas oublier que le mime Marceau était dans la Résistance.
Ah, bah oui. Il est rentré dans la Résistance par le biais de son grand frère et de son cousin, qui eux y étaient déjà. Et il a abandonné son égoïsme d'artiste pour aller sauver quand même plusieurs milliers d'enfants et leur faire passer la frontière, ouais.
Et vous allez tourner avec Bérénice Bejo, c'est un projet ou c'est vrai?
Je sais pas où ça en est.
Vous n'êtes pas au courant encore?
Vous n'êtes pas au courant.
Non. Sinon, vous retrouvez dans Emilio.
Un long métrage de Tom Cheval.
Ah, ouais, exact. Ouais, mais
il faut pas en parler.
Ça en est où?
Mais c'est à vous de nous le dire.
Ouais, je sais pas.
Ok, d'accord. Alors attendez, il y a un autre projet qui s'appelle Si tu vois ma mère.
Si tu vois ma mère, ouais. Ça commence dans 3 semaines avec Noémie Lvovsky qui joue ma mère, ouais. Je commence 2 semaines après la sortie de mon film. Je pars.
Et Sarah Giraudeau.
Comment?
Et Sarah Giraudeau.
Et Sarah Giraudeau, la merveilleuse Sarah Giraudeau.
Là, vous réalisez ou vous jouez?
Là, je joue dedans. D'accord. C'est un film sur le complexe d'Oedipe. Comme ça, voilà,
vous aurez équilibré avec le film. Exactement. Est-ce que vous êtes déjà en écriture de votre prochain long?
Je prends des notes. Je me rends compte que je vais faire exactement le même film.
Bah, les notes, si vous les prenez pendant la projo de Fils, oui, c'est mal barré. Ouais.
Non, mais ça va être c'est étonnant, quoi. Comme quoi, on a des obsessions. Hein.
De toute façon, si vous respectez votre rythme, il sort dans 26 ans.
Bah, oh,
28
là, là, là. Ouais, dans 28 ans exactement.
28 ans. Vincent Attends, Lacoste, on a dit qu'on a précisé, je le répète, vous êtes au César. Cette période-là, on est quoi, 10 jours des Césars, comment on le vit?
Bah écoutez, j'attends. J'ai pas grand-chose à faire d'autre.
Il est imperturbable, en fait, c'est ça.
Non, je suis très content d'y être.
Un petit...
Bah, j'ai très peur, très honnêtement, ma plus grande crainte... Et de monter sur scène si je l'ai, quoi.
C'est de l'avoir.
Non, mais c'est vrai. Moi, ça m'a toujours terrifié. Bon, je l'ai jamais eu, heureusement. Mais de monter sur scène, c'est quand même un sacré truc, quoi.
Parce non, mais que ça serait un sacré truc de l'avoir aussi. Ce serait génial.
Ouais, mais moi, je pense plus au truc de si je l'ai, je monte sur scène.
Écoutez, croisez les doigts pour que vous ratiez.
Donc, vous ne préparez rien?
Si, non, j'essaie de préparer un truc quand même. Mais non, bah, j'ai écouté, je serais content de l'avoir cette fois. Hein,
mais surtout, c'est tellement mérité. Il y a un moment où vous avez vu l'année qu'il a faite.
Clairement.
C'est dingue. Il fait même 10 ans de carrière.
Mais c'est bien de perdre, ça rend sympathique.
Quelle est la première? Ouais, ça, c'est Poulidor, génération Poulidor. Maintenant, c'est génération Deschamps. Quelle est la première personne à laquelle vous pourriez penser, celle que l'on remercie? On se dit évidemment, on faut pas être trop long dans les remerciements, mais votre premier réflexe, c'est un réflexe familial, professionnel, amical, amoureux?
Là, je non, mais je remercierai Michael Herz, le réalisateur du film, bien sûr. Et après, je remercierai aussi Riyad, je pense, parce que Riyad Satouf. Parce que c'est la personne sans qui, enfin sans lui, je ferais pas de cinéma, en fait. Donc, donc évidemment,
vous êtes prêt, en fait, à
le faire. Oui, je pourrais le faire d'ailleurs, ouais, c'est ça.
Mais Nagui, toi qui sais tout à l'avance, qu'est-ce qu'il a?
Lui?
Ah,
mais je voulais pas le miner. Le film s'appelle Deux Fils, réalisé par Félix Moati, avec Vincent Lacoste, Benoît Poulvorde, Mathieu Capella, Anaïs de Moustier. Entre autres, on a parlé de Noémie Lvovsky, également présente et toujours formidable, de toute façon, quoi qu'elle fasse. India Air, Patrick Dassoum Sao. Et j'ai dit Anaïs de Moustier ou pas? Oui, je l'ai dit. Et ça sera au cinéma mercredi prochain. Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Oh là, plein. Désolé déjà pour Félix Moati, qui a cru nous bluffer ici sur France Inter en parlant avec fierté, une certaine arrogance d'un besoin de consolation impossible à rassasier. Comme si j'avais pas vu que vous empruntiez cette citation au titre du livre de Stig Dagerman, le célèbre suédois publié en 1952 sous le titre original de Varder Behoff Anstrauss Omaklig. Attention, après pour un jambon ou quoi? Référence à l'année du cochon, bien évidemment. Désolé pour Félix Moati, encore une fois, on l'a appris, il doit se fader tous les jours le coup de fil de son bavard de père.
Félix, vous savez, moi je subis quotidiennement les interviews de Nagui. C'est plus long et beaucoup moins intéressant. Désolé pour tous nos auditeurs nostalgiques de Mussolini. Donc, fans de Nagui, évidemment, qui ont été déçus par le lâche Félix Moati, qui n'a pas assumé d'avoir utilisé le cri de guerre du Duce, force et honneur. C'est vrai que ces petits joueurs, à nous avant chaque émission, chantent Maréchal nous voilà. Et on assume, monsieur. Hein. Désolé pour nos auditeurs non alcooliques. Hein. Il y en a quelques-uns qui ont été choqués par l'apologie de l'alcool faite par messieurs Moati et Lacoste. Hein. Et ça risque pas de s'arranger demain avec Isabelle Carré et Bernard Campan qui viendront nous parler de la dégustation. Une pièce autour du pinard.
Exactement. Bah, tout est dit. Même l'annonce de demain. Merci les garçons.
Bravo. Merci, merci beaucoup.
Merde pour mercredi prochain. À suivre les carnets de campagne de Philippe Bertrand. Passez une très bonne journée sur Inter. À demain. Merci.